Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur l'histoire récente du martyr des Kurdes, la tragédie d'Alepja, cette ville de la région du Kurdistan d'Irak, en mars 88, qui était la cible des bombardements de Saddam Hussein à l'arme chimique. Trois jours pendant lesquels les Kurdes, hommes, femmes, enfants, ont été massacrés. Ce sont les tranchées de la Première Guerre mondiale, matrice de la violence du XXe siècle, qui ont servi de laboratoire à la guerre chimique. Le mal s'appelle alors gaz moutarde, gaz irritant ou gaz chloré toxique. En 1925, à Genève, les anciennes forces belligérantes signent un protocole pour prohiber l'emploi de ces horreurs et aussi des armes bactériologiques, mais sans interdire ni leur production, ni leur développement, ni leur stockage. Criminelle schizophrénie. Il faudra attendre l'année 1993 pour que l'interdiction complète des armes chimiques et la destruction des arsenaux soient actées. Mais entre-temps, sur les terres irakiennes dirigées par le dictateur Saddam Hussein, pendant la décennie 80, le monstre chimique s'abat pendant plusieurs années, notamment sur les territoires où vivent les Kurdes. Le massacre le plus important se déroule donc à Alepja, où près de 5000 personnes succombent aux effets des gaz. Jusqu'à ce jour, c'est le cas le plus grave, le plus abject de l'utilisation par un État de l'arme chimique contre sa population. Raconter l'histoire de l'Alepja, c'est donc revenir au temps des guerres irakiennes extérieures et intérieures de Saddam Hussein. Et dans ses ruines, c'est reprendre la route des réfugiés kurdes, entendre leur histoire, puis revenir avec eux dans leur village détruit. C'est aussi écouter les témoignages de ceux qui ont vécu les attaques et les massacres. Et c'est constater que 5, 10, 20 ans après, la mort chimique ronge toujours les corps et les têtes de cette ville. Aujourd'hui, 31 ans plus tard, le président américain Donald Trump décide unilatéralement de quitter la Syrie et de laisser les Kurdes à la merci des Turcs. Les Kurdes qui ont pourtant combattu Daesh. Pourquoi les trahir ainsi? Notre invité aujourd'hui, Bernard Kouchner, qu'on ne présente plus, mais dont il faut rappeler que dès 1974, il a lutté pour les droits du peuple kurde en Irak, en Turquie, en Syrie. Il s'est rendu deux fois à Alepja dans une fidélité constante pour cette cause kurde. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Enlever les montagnes et un jour les Kurdes ne seront plus, dit un vieux proverbe. Éparpillés sur quatre pays, la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran, les Kurdes forment une nation sans État, mais pas sans mémoire. Peuple de 35 millions d'âmes, ils portent en héritage une histoire, une langue, une culture et plus d'un siècle de révolte et de combat. Le destin des Kurdes est à l'image des paysages montagneux qu'ils habitent, tranchants, vertigineux, sinueux, dont l'horizon est une succession de sommets où derrière chaque montagne se cache souvent une route vers l'exode. Depuis plus d'un siècle, les Kurdes sont les témoins d'un Moyen-Orient en constante révolution. Oubliés du redécoupage de l'Empire ottoman au lendemain de la Première Guerre mondiale, ils ne sont qu'une minorité face à laquelle les pouvoirs centraux de chaque pays oscillent entre intégration, association ou répression. Divisés, l'indépendantisme kurde est multiple. Il s'inscrit dans des réalités territoriales et étatiques différentes qui évoluent selon les régimes et les époques. Dans chaque État, chaque mouvement indépendantiste kurde trace ainsi sa propre route. Et tous n'ont en commun, finalement, que la répression qu'ils subissent en tant que minorité. En Irak, en 1974, après des années de guérilla, Mollah Mustafa Barzani, qui fut pendant 30 ans le chef du mouvement national kurde en Irak, dépose les armes après l'abandon de la protection iranienne. 5 ans plus tard, les Kurdes d'Irak perdent leur leader. Le 2 mars 1979, en effet, Barzani meurt en exil à Londres. Cette même année, c'est tout le Moyen-Orient qui bascule. Les troupes soviétiques pénètrent en Afghanistan, Saddam Hussein accède officiellement au poste de président en Irak, et en Iran, la révolution permet le retour de Khomeini au pays. Iran, Irak, deux ambitions pour une même région, deux horizons pour un même chaos. Le 22 septembre 1980, Saddam Hussein agresse l'Iran en envahissant le Kurdistan iranien situé à la frontière sud des deux pays.
Cette fois donc, c'est bien la guerre entre l'Irak et l'Iran. Depuis 6 mois, quotidiennement, les radios des deux pays s'insultaient au-delà des frontières. L'ayatollah Khomeini promettait un déluge de fer et de feu au président irakien Saddam Hussein, lequel répondait que les infidèles perses seraient châtiés sur l'autel d'Allah. Insensiblement, les attaques verbales se sont transformées en incidents de frontières. Chaque jour, depuis 3 mois, les états-majors des deux pays annonçaient des rafales de tirs automatiques ou des pilonnages de mortiers. Dans un premier temps, les accrochages se sont limités à la région nord-est de l'Iran, puis, brusquement, ils se sont déplacés vers le sud, vers la province pétrolière du Khouzistan. L'Iran est isolé du reste du monde. Toutes les communications téléx ou téléphone avec l'Iran sont coupées. En fin de matinée, une escadrille de MiG irakiens a bombardé les 6 principaux aéroports d'Iran, y compris celui de Téhéran. Aussitôt après, l'état-major irakien ordonnait à ses troupes d'engager partout des opérations de harcèlement contre l'Iran.
L'offensive est rapide, mais l'Iran tient tête, puis contre-attaque. Entre ces deux pays, une guerre de 8 ans commence. Sur mer, des pétroliers s'enfoncent, sur terre, des missiles s'abattent au cœur des villes. Sur la ligne de front entre l'Iran et l'Irak, les montagnes kurdes et leurs villages sont pris en étau dans le calendrier des offensives et des contre-offensives de deux camps. Durant ces années-là, auprès des Kurdes, il n'y a que des médecins qui, le temps d'une mission humanitaire, sont les témoins de leurs blessures et deviennent les porte-paroles de leur malheur. De cette guerre, pendant longtemps, on ne vit que le premier plan, les villes balafrées, les combats terrestres entre les deux armées. Et pourtant, à l'arrière de ces images et de ces comptes rendus de bataille, d'autres tragédies prennent forme. En mars 1987, Ali Hassan al-Majid, que l'on connaîtra plus tard sous le nom d'alchimique cousin de Saddam Hussein, est investi des pleins pouvoirs sur tous les organismes d'État en Irak du Nord où se trouvent précisément les Kurdes. Sa mission est simple, détruire l'ennemi intérieur. Pendant l'année 87, les soldats irakiens avancent sur les terres de Kurdistan, encore sous domination de Bagdad. La population est déplacée, remplacée de force par des populations arabes. Des villages entiers sont détruits. L'armée crée des périmètres où il est interdit de pénétrer sous peine de mourir. Un an plus tard, dès février 1988, les hommes d'Ali Hassan al-Majid lancent l'offensive contre les zones sous domination des combattants kurdes et iraniens. Jour après jour, en suivant un plan précis, les soldats irakiens encerclent les poches des combattants et des civils, puis reçoivent l'ordre d'anéantir toute résistance par n'importe quel moyen. Et à la mi-mars 1988, l'ombre du monstre chimique dont l'utilisation par l'Irak a déjà été condamnée apparaît plein cadre sur les télévisions du monde entier.
Image terrible diffusée hier soir, celle de la guerre chimique menée par l'Irak et dont les conséquences ont été filmées par la télévision iranienne dans un village kurde où les bombardements chimiques irakiens auraient fait quelque 5000 morts selon Téhéran. L'Iran a demandé officiellement à l'ONU d'envoyer sur place une mission d'enquête pour constater l'ampleur du désastre.
Sur ces images, des centaines de corps d'enfants, d'hommes et de femmes. Que s'est-il passé à Al-Abja ? Depuis plusieurs semaines déjà, les combats s'approchaient de la ville. Avant les bombes, ce sont les réfugiés qui ont pénétré dans les rues. Au début du mois de mars 88, ils sont 60 à 70 000 à vivre ici, à la frontière de l'Irak et de l'Iran, entre plaines et montagnes, et à quelques kilomètres du lac de Darbaninghan, dont le barrage contrôle une part importante des approvisionnements en eau de la capitale irakienne. Carrefour des routes de voyageurs, cette ville commerçante est devenue une cible sur les différentes cartes des états-majors. Le 13 mars, les Iraniens lancent sur la ville une offensive conjointe avec les Peshmerga kurdes. Le lendemain, les Irakiens leur répondent en bombardant la zone à l'arme chimique pendant 3 jours. Quelques jours plus tard, Al-Abja est déserte, figée. Le sol est jonché de gravats et de centaines de corps cloués au sol par une mort invisible. Les Iraniens, de retour sur les lieux, accompagnés par quelques journalistes, ne rencontrent que quelques familles qui ont pu trouver refuge dans les caves ou les abris loin des vapeurs chimiques. Les autres sont partis dès les premiers bombardements. Certains ont pu rejoindre les montagnes, d'autres ont été rattrapés par les bombes. Les images tournées par les journalistes braquent en un instant les yeux du monde entier vers le Kurdistan et vers l'Irak. Le 8 mai, sur le plateau du journal d'Antenne 2, Bernard Benedetti, docteur chez Médecins du Monde, de retour de la frontière turque où il a rencontré des réfugiés kurdes, témoigne.
J'ai demandé, moi, depuis la Turquie, très officiellement au secrétaire général de l'ONU, une commission d'enquête en Irak, parce que les témoignages que nous avons sont formels, aussi bien de la part des Kurdes réfugiés que de la part des militaires qui font un petit peu des témoignages sous le manteau des militaires turcs, en nous disant que les massacres sont tout à fait intenses dans la région du Turkestan irakien.
Justement, puisque vous en rentrez, est-ce que vous avez vu sur le terrain des traces éventuelles d'utilisation d'armes chimiques ?
Non, je n'ai pas obtenu de preuves objectives pour le médecin de traces de lésions de gaz chimique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas eu.
Malgré les accusations des forces iraniennes et des représentants kurdes irakiens, la communauté internationale réagit à peine. Le 9 mai, le Conseil de sécurité de l'ONU se contente de rappeler à l'Irak, mais aussi à l'Iran, de s'abstenir d'utiliser les armes chimiques. À Paris, même son cloche, le gouvernement français les condamne, où que ce soit et par qui que ce soit. Mais c'est comme ça. L'indignation en matière diplomatique est souvent éphémère et variable, selon la géographie des horreurs. Entre-temps, sur le front, l'offensive irakienne collectionne les victoires. Le 8 août 1988, face au revers militaire, l'effondrement économique et la crainte des bombardements chimiques, l'Iran accepte la mise en place d'un cessez-le-feu. Le 20, les combats cessent. La guerre est terminée. Il ne reste plus que les charniers, les disparus et des cohortes de réfugiés sur la route de l'exode. Parmi eux, des Kurdes d'Alabja qui, devant les caméras, racontent.
C'est à cause des armes chimiques qu'il est parti.
Est-ce que lui, il a vu des bombes chimiques ?
Kimya tatiller kullanıldığını görmüş mü?
Hadi demon hota dit.
Bale bale bu madip şu.
Hadi biz görmüş.
Evet, oui, il a vu. Des morts, des blessés.
Ah, obviamente.
Il dit que tout le monde est mort à cause des armes chimiques. Ils étaient tous par terre. Il y avait des milliers qui sont morts à cause des armes chimiques.
Voilà, la guerre ressurgit. À Alabja, dès le 15 mars 1988, date de l'arrivée des forces iraniennes dans la ville, beaucoup d'habitants inquiets des représailles irakiennes s'enfuient. Le 16 mars, au petit matin, des premiers bombardiers irakiens pilonnent la ville sans relâche. À 14h, de nouveaux avions apparaissent. Prostrés dans des abris ou dans des caves, les assiégés n'entendent alors aucune explosion, non, aucun bruit. Mais l'air se charge d'une odeur étrange. Alors on colmate les ouvertures, on ferme les portes et les fenêtres. Les yeux rougissent, la peau brûle, certains toussent, puis sont pris de démangeaisons. Éloignés de la ville et des gaz, d'autres voient des gens tomber. Après quelques heures, certains sortent des abris. Dans les rues de cette ville devenue silencieuse, ils découvrent alors des centaines de corps qui semblent comme pétrifiés. Les derniers survivants de la ville prennent la fuite sans avoir le temps d'enterrer leurs proches. À 20h, les avions réapparaissent et larguent de nouveau des substances chimiques. Ceux qui n'ont pu rejoindre des abris ou des villages proches sont rattrapés par les gaz. Pendant 3 jours, Alabja subit ce martyre. La ville n'est plus qu'un cimetière plongé dans le silence, ni chant d'oiseaux, ni voix, ni cris, rien. Sur la route autour de la ville, on découvre des gens figés, tétanisés, la main encore sur le volant, la bouche et les yeux grands ouverts dans les remorques de camions, par exemple. Les survivants sont désormais dans les montagnes, partis sur la route de l'exode vers l'Iran ou vers la Turquie. Et c'est dans l'un de ces camps de réfugiés qu'en mai 1989, Daniel Mitterrand propose, via son association France Liberté, l'accueil de familles kurdes en France. En août, elles sont 335 à débarquer dans une caserne de Bourlastic, dans le Puy-de-Dôme. Après la marche forcée, les camps de réfugiés, c'est dans notre pays que ces malheureux damnés de la terre espèrent retrouver le goût de la vie, peut-être, la fin de l'exode, sûrement. Et c'est de ce village d'Auvergne qu'ils assistent au retour de la guerre en Irak. Car en août 1990, Saddam Hussein envahit le Koweït. Face à cette nouvelle agression irakienne contre l'un de ses voisins, la communauté internationale décide d'intervenir. Le 17 janvier 1991, une opération militaire est lancée contre l'Irak de Saddam Hussein. La première guerre du Golfe commence. Dans le même temps, les populations kurdes au nord et les chiites au sud se soulèvent. Saddam Hussein réagit en bombardant chaque zone. Face à la peur chimique, près d'un million et demi de civils quittent leur village et leur vie. Et c'est la fuite, de nouveau. Et encore une fois, on assiste à l'exode de ce peuple seul dans les montagnes d'Anatolie, marchant dans la neige et le froid. En une semaine, près de 450 000 Kurdes se massent à la frontière turque que les autorités d'Ankara refusent d'ouvrir. Pour éviter de nouveaux drames, la communauté internationale impose pour la première fois une zone d'exclusion aérienne et permet l'arrivée sur place de l'aide humanitaire. Les soldats irakiens, eux, rentrent à Bagdad. Au printemps 1991, à Al-Abja, pour les Kurdes, c'est le temps du retour. Parmi eux, il y a Dolovan, un petit garçon que l'équipe de journalistes français accompagne.
Dolovan, tu es bien sûr que c'était ça ta maison ?
C'est chez moi, ici. Je reconnais l'endroit. Les avions sont arrivés. Ils ont fait 4 tours. Ils ont bombardé. Et je me suis enfui. Après, j'ai été blessé. Et 2 jours plus tard, il n'y avait plus personne. Un hélicoptère iranien est venu me secourir. Et quand je suis revenu d'Iran, je n'avais plus personne. Je suis allé au cimetière des martyrs et jusqu'à notre maison qui était détruite.
Al-Abja n'est plus qu'une ruine. L'attaque chibine de mars 88 n'a pas seulement marqué les souvenirs des survivants, elle s'est accrochée à leur corps. Dans la ville, on repère que certains ont le cou, les jambes ou le visage brûlé, comme rongé par une gangrène qui noircit la peau. D'autres ont perdu la vue, l'usage des muscles ou de l'esprit. À Al-Abja, il y a les tombes, les survivants et les morts parmi les vivants, enfermés dans un mal qui les consume de l'intérieur. La terre aussi a gardé les traces de l'attaque. Les fosses communes ont infecté le sol ainsi que les nappes phréatiques. Dans les cours d'eau, dans d'anciens vergers, le mal apparaît verdâtre, gluant, indicible. Mais quels sont ces poisons qui rongent ces hommes et cette terre ? En 1991, lors d'un reportage pour Envoyé spécial, le professeur Hendrix présente différentes photos des victimes des bombardements chimiques de Saddam Hussein.
Vous voulez me parler du chimique ? Eh bien, je vais vous montrer ce que Saddam Hussein a fait. Intoxiqué à l'hyperite, le produit de 14-18 connu par les Français, employé tout près de la ville d'Ypres. Ici, vous avez une petite fille que nous avons trouvée à Al-Abja, intoxiquée par le cyanure, gaz employé dans les chambres à gaz dans les camps de concentration. Saddam Hussein a ça. Il emploie ça en cocktail. Alors, la grande catastrophe, n'est-ce pas, pour traiter ces gens. Nous sommes les seuls qui sont partis à Al-Abja, sans assurance, sans rien du tout, pour prendre les échantillons sur le champ de bataille, compter les morts, surtout des femmes et des enfants. Nous avons envoyé ces rapports aux Nations Unies, à la Commission de désarmement à Genève, à différents gouvernements européens, mais personne n'a bougé. Et ce n'est que maintenant, depuis Koweït, quand tout a changé, qu'on commence à parler.
Oui, mais malgré les récits et les preuves de l'utilisation d'armes chimiques par l'Irak, Saddam Hussein n'est pas inquiété. Grâce à l'intervention internationale et la zone d'exclusion, le Kurdistan d'Irak obtient une autonomie de fait. Au niveau international, 2 décisions importantes sont prises au sujet de la réglementation et du contrôle des armes chimiques. En avril 1991, le Conseil de sécurité vote la mise en place d'une commission spéciale des Nations Unies chargée du désarmement. Elle doit inspecter les différents sites d'Irak soupçonnés d'abriter des armes de destruction massive et chimiques. 2 ans plus tard, en janvier 93, la Convention sur l'interdiction de la mise au point de la fabrication, du stockage et de l'usage des armes chimiques et sur destruction est signée à Paris. Entrée en vigueur 4 ans plus tard, elle met en place pour la première fois une interdiction complète, une destruction des arsenaux existants et un régime de vérification des engagements. Mais l'Irak, la Libye, la Serbie et la Syrie refusent de signer. Alors que la communauté internationale cherche à enterrer le monstre chimique, les Kurdes demandent toujours justice pour Al-Abja et les massacres des années 80. Chaque année, le 16 mars, des camps de réfugiés jusqu'aux montagnes d'Irak, on se souvient de ces 3 journées où une mort invisible est tombée du ciel. Alors, question, quand les assassins d'Al-Abja seront-ils jugés ?
Madame, monsieur, bonjour. La totalité de ce journal sera bien évidemment consacrée à la guerre en Irak. Depuis hier soir, des raids aériens d'une rare puissance ont touché toute la nuit à l'aube la capitale, avec toujours comme cible Saddam Hussein et ses infrastructures.
320 missiles seraient tombés sur la capitale irakienne. Les zones visées, les quartiers administratifs et surtout le palais de la République, principal palais présidentiel au bord du Tigre.
Mes chers concitoyens, en ce moment, les forces américaines et la coalition sont dans les premières étapes d'opérations militaires pour désarmer l'Irak, pour libérer son peuple et pour défendre le monde devant un grand danger.
Bonjour, prise d'antenne exceptionnelle ce matin de la rédaction de France 3, bien sûr, puisque les circonstances l'imposent. L'offensive américano-britannique a commencé cette nuit à 3h32, très exactement.
Saddam Hussein a placé des troupes et du matériel militaire dans des zones civiles afin de se servir d'hommes, de femmes et d'enfants innocents comme des boucliers humains.
Le choc et l'effroi, c'est le nom de l'offensive américaine. C'est aussi la réalité sur Bagdad depuis l'attaque d'hier soir.
En Irak, la guerre revient comme les saisons. En 2003, deux ans après les attentats du 11 septembre et après une première intervention en Afghanistan, George Bush sollicite une intervention préventive de la communauté internationale contre l'Irak, coupable, selon son administration, de détenir des armes biologiques et de destruction massive et de pouvoir en produire rapidement. Un sinistre complot contre un sinistre régime. Le 8 février 2003, le secrétaire d'État américain Colin Powell affirme avoir des preuves de l'existence de ces armes. Le 20 mars 2003, l'opération anglo-américaine Iraqi Freedom commence. Le 10 avril, la statue de Saddam Hussein est déboulonnée et détruite devant les caméras. Dans cette guerre éclair, les Kurdes, alliés de l'opération, gagnent par les armes leur autonomie face à Bagdad. À Al-Abja, comme dans chaque village d'Irak où durant le règne d'Hussein la répression était si féroce, on célèbre la fin du régime. Au mois d'août, une autre nouvelle est célébrée dans les rues de la ville.
Ali Hassan Al-Majid, ce nom ne vous dit sans doute pas grand-chose, mais vous connaissez sûrement son surnom, Ali le Chimique. C'était l'un des hommes les plus recherchés d'Irak depuis la victoire américaine. On avait annoncé la mort de ce cousin de Saddam Hussein, mais il était bel et bien vivant. Il vient d'être capturé, on ne sait pas encore dans quelles conditions, par les forces de la coalition. Il devait son surnom au gaz mortel qu'il avait déversé en 1988 sur un village kurde, tuant 5000 personnes. Et puis après la première guerre du Golfe, il s'était illustré, si l'on peut dire, en organisant la répression sanglante contre les chiites, notamment à Bassora.
Annoncé mort au début de l'offensive anglo-américaine, Ali le Chimique, numéro 5 sur la liste des personnes recherchées de l'ancien régime, est sain et sauf. Arrêté, il pourra être ainsi jugé. Quelques mois plus tard, en décembre 2003, c'est Saddam Hussein qui est capturé. Alors qu'une autre guerre commence au cœur du pays, le pouvoir irakien organise le procès de l'ancien dictateur et des hauts dignitaires de l'ancien régime. En 2004, Ali le Chimique est inculpé pour le gazage des Kurdes à Al-Abja en 1988, pour l'invasion du Koweït en 1990, ainsi que pour la répression sanglante du soulèvement des chiites du sud du pays en 1991. En août 2006, s'ouvre le procès de l'opération Al-Anfal. Pendant plusieurs mois, à la barre, survivants et spécialistes racontent l'élaboration du plan de destruction des Kurdes d'Irak par les hommes de Saddam Hussein. Au deuxième jour du procès, un homme, Ali Mustafa Hamma, raconte la destruction de son village à l'arme chimique. Il dit « Les explosions n'étaient pas très puissantes, mais une fumée verte a commencé à se répandre un peu après, suivie d'une odeur de pommes pourries ou d'ail. Beaucoup de gens ont alors commencé à vomir. » Tandis que leurs yeux les piquaient fortement. Nombre d'entre eux sont morts. Le lendemain, des soldats irakiens sont arrivés. Ils ont brûlé le village, ils l'ont entièrement détruit. C'était le 16 avril 1987 à Beziland, un an avant Al-Abja. Audience après audience, de nouveaux noms de villes martyrs, de nouveaux lieux de détention et de torture s'inscrivent dans la mémoire des survivants. Parmi ces noms, il y a celui de la prison de Nugrat Salman, située à l'extrême sud désertique de l'Irak, où ont été conduites de nombreuses familles kurdes arrêtées dans les villages du nord, avant d'y être emprisonnées et souvent assassinées. Il y a eu aussi le village d'Adlar, près de Mossoul, où les habitants ont été enterrés vivants, selon un témoin qui a pu s'en échapper. Le 30 décembre 2006, alors que le procès de la campagne militaire d'Anfal, qui n'avait pour but que l'extermination des Kurdes, n'est pas terminé, l'ancien dictateur Saddam Hussein est pendu. Le procès se poursuit sans lui. Lors de la 34e audience, retransmise à la télévision, l'accusation diffuse pour la première fois des enregistrements sonores. Parmi ces bandes-sons, on entend Saddam Hussein expliquer, comme s'il s'en félicitait, « Les armes chimiques sont efficaces sur quiconque n'utilise pas immédiatement un masque. Les gens ne peuvent rien faire, ni manger, ni boire, ni dormir. » Au cours du procès, Ali Hassan al-Majid assume le décret du 3 juin 1987 signé de sa main, où il demande aux forces irakiennes de tuer tout être humain ou animal présent sur les lieux. On estime aini que plus de 180 000 civils kurdes ont été assassinés par l'armée de Saddam Hussein pendant la campagne d'Anfal. Le 2 avril 2007, le ministère public requiert la peine de mort contre Ali al-Shimik. Quelques jours plus tard, le journaliste de France Inter, Lionel Thompson, était à la Bja, où l'on n'a pas oublié les actes d'Ali al-Shimik, bien sûr. Un survivant témoigne.
Le 16 mars, toute ma famille se dirigeait vers un autre village pour passer l'après-midi. Mon père avait préféré de rester à la maison et ensuite il a subi le bombardement des forces irakiennes et il est mort tout de suite après avoir été bombardé par les avions de Saddam Hussein.
De juin 2007 à janvier 2010, Ali al-Shimik est condamné à 3 reprises à la peine de mort pour la campagne d'Anfal, la répression contre les chiites et le massacre de la Bja. Le 20 janvier 2010, il est pendu. Quelques semaines plus tard, un avocat américain, Gary Elmayron, arrive à la Bja. Après avoir fait condamner les assassins, les victimes souhaitent désormais que la lumière soit faite sur la responsabilité des complices de ces crimes, notamment les entreprises et les marchands qui ont permis que de tels actes soient possibles. Pendant 3 ans, l'avocat et son équipe collectent des milliers de documents et suivent la route de l'argent. En juin 2013, une première plainte contre X est déposée par des Kurdes au tribunal de grande instance de Paris avec l'espoir que les entreprises françaises ayant vendu des armes chimiques au pouvoir bassiste soient poursuivies. Parmi les preuves récoltées, un rapport confidentiel rédigé en 1996, intitulé « Compte-rendu définitif et complet sur les armes chimiques en Irak », qui retrace l'histoire du programme chimique irakien, avec des centaines de pages de transactions commerciales, on y trouve à plusieurs reprises le nom de sociétés françaises. En France, l'enquête est toujours en cours. Aujourd'hui, à la Bja, les maisons ont été reconstruites. Dans la rue, les bazars et les restaurants ont rouvert leurs portes. Les fruits et les oiseaux sont revenus. On compte désormais plus de 35 000 personnes. Mais les corps meurtris à l'arme chimique, eux, n'oublient pas le massacre. En 2014, les journalistes Sophia Marchesin et Marine Courtade pour France 24 reviennent sur place. Elles rencontrent les blessés dans la Bja, parmi eux, cette femme.
Gino avait 3 mois au moment des attaques. Elle s'imaginait indemne jusqu'à la naissance de ses 2 enfants. Anna a 4 ans. Ara en a 5. Il ne marche pas, ne parle pas et mange avec difficulté.
On est allé en Iran et le médecin m'a dit qu'il y avait 90% de chances que ce soit lié à l'attaque chimique. Quand j'attendais mon 2e enfant, je suis allée chez le médecin, ici, en Irak, et je lui ai posé la question. Est-ce que j'aurai le même problème qu'avec le premier ? Il m'a répondu non. Je me suis dit, ça ne va pas se reproduire, c'est impossible. Mais après, les médecins iraniens m'ont dit, vous ne devriez pas avoir d'enfant à Al-Abja.
Si Al Abja est désormais loin de la ligne de front, les Kurdes combattent toujours pour sauvegarder leurs terres. En Irak, comme en Syrie, désormais l'ennemi s'appelle Daesh. Dans cette nouvelle guerre qui embrase le Moyen-Orient, l'ombre chimique plane toujours. L'actualité nous le rappelle. De nouveau, nous avons vu des images où des nuages de gaz colorés se faufiler dans les rues et les caves. De nouveau, nous avons été témoins de ces corps suffoquant au sol ou dans les chambres d'hôpitaux. De nouveau, les survivants ont parlé, des journalistes et des scientifiques sont allés enquêter à la Bja, mais cela ne change presque rien. Quand les bombes cesseront-elles en Syrie et en Irak ? Quand elles cesseront ? nous verrons ressurgir des ruines d'Outa, d'Alep et d'autres villes, les fantômes de ces attaques chimiques.
France Inter, Affaires sensibles.
Aujourd'hui, le drame du peuple kurde, notre invité Bernard Kouchner, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes médecin, cofondateur de Médecins Sans Frontières et de Médecins du Monde, plusieurs fois ministre Action Humanitaire, Santé, Affaires étrangères. Mais vous avez été aussi, et vous êtes la S-qualité, depuis 1974, l'un des témoins et compagnons des Kurdes, avec une fidélité jusqu'à aujourd'hui. Dans quelles circonstances avez-vous rencontré les Kurdes en 1974 et dans quel contexte?
Oui. Tout ça est bien sombre.
Oui, mais telle est la réalité.
La réalité est sombre et les armes chimiques, bien sûr, ont été utilisées, vous le savez, il n'y a pas longtemps encore en Syrie. Mais il n'y a pas que les armes chimiques, je répondrai à votre question, bien sûr, mais on s'indigne pour les armes chimiques, il y a de quoi, bien entendu. Mais il faut s'indigner de toutes les armes. Il y a eu entre 400 et 600 000 morts en Syrie. Et on a laissé faire. 74, c'est bien loin. C'était la première mission autonome de Médecins Sans Frontières. Et nous avions été sollicités par le représentant des Kurdes en Europe, qui s'appelait Ismet Şerif Vanli, qui habitait Lausanne, et qui d'ailleurs prendra un jour une balle dans la tête. On aura sonné à sa porte pour le punir. Nous sommes partis, Max Récamier, Jacques Berès et moi-même, et nous avons rencontré pour la première fois ce peuple fort et doux, si j'ose dire, attendrissant et courageux. Et à cette époque, 74, nous étions bombardés par des hélicoptères que, pour une part, la France avait vendus à Monsieur Saddam Hussein. Et c'était une guerre qui opposait la volonté kurde d'exister, d'avoir, pas un pays, parce que tout ça est... Et ce sont des mots trop forts, mais enfin au moins une autonomie. C'était des gens qui s'affirmaient comme kurdes, c'est-à-dire différents des arabes qui composaient arabes chiites, pour la majorité qui composaient en Irak, qui composaient l'Irak. Et donc la bataille était rude et nous avions découvert le début d'un peuple, les débuts pour nous, de gens plus ouverts, de gens pour qui la religion n'était pas un étouffoir, de gens qui aspiraient à une société plus libre et plus moderne. Voilà, c'est la première fois et depuis, nous ne nous sommes pas quittés, si j'ose dire, très prétentieusement, parce que il y avait d'autres gens que nous, mais enfin, ils sont morts, ça fait très longtemps que...
Vous étiez avec eux, avec les Kurdes, très récemment, mais vous y retournez la semaine prochaine, c'est ça?
Oui, j'y retourne la semaine prochaine, mais là, je retourne au Kurdistan d'Irak, parce que il y a des universités. Enfin, bref, oui, je les ai pas quittés. Vous savez, c'est difficile de pas les quitter, mais c'est facile de les quitter aussi, tant ils sont batailleurs et souvent opposés les uns aux autres. Alors, il faudrait des heures pour accompagner de nos sentiments les Kurdes qui en ont des plus forts que les nôtres. Oui, mais vous savez, il y a deux choses qu'on aurait dû souligner. Les Kurdes sont des sunnites pour l'immense majorité. Et les gens qui les bombardaient étaient des chiites, pour l'immense majorité.
On retrouve toujours cet antagonisme.
On retrouve
terrible.
Ça, mais c'est pas important pour les Kurdes, parce que les Kurdes ne sont pas religieux, mais c'est comme ça.
Ouais, absolument.
Et puis, l'opération Anfal, que vous avez citée deux fois, et je vous en remercie, elle a détruit 2000 villages kurdes, et en effet, vous avez dit 180 000, à moi, mon avis, c'est plus que ça, mais c'était une guerre, il y a toujours des guerres à l'intérieur. Mais pourquoi ça? Mais parce qu'il y a eu la colonisation, parce que tout ça a été dessiné, surtout à la fin de la guerre de 14, 14-18, on a tracé sur des feuilles anonymes, si j'ose dire, des gros traits de crayon bleu, qui sont d'ailleurs déposés au Quai d'Orsay, je les ai vus, je les ai touchés, je les connais, et on a fait la ligne Sykes-Picot, et on a promis à la fin de la guerre de 14, en 1920, à Sèvres, en France, à côté de Paris, une conférence a dit, évidemment, un État pour les Kurdes.
Évidemment.
Et en 23, à Lausanne, on a dit, pas d'État pour les Kurdes. Nous sommes responsables de tout cela. Pas seulement les Français, mais Français et Anglais beaucoup.
Les Anglais beaucoup.
Bien
les Français
sûr,
aussi.
Les Français aussi.
Et les Américains avec l'exploitation du pétrole.
Oui, ils n'étaient pas encore là beaucoup, mais enfin...
Mais ils étaient là déjà avec le pétrole.
Ah ben, ils étaient avec le pétrole. Vous avez des voitures aussi. Nous sommes tous là avec le pétrole.
C'est vrai. Alors, je n'ai pas de vous demander quelle était votre réaction après les massacres d'Al-Abja, évidemment. Épouvantable. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti au fond de vous-même, vous qui connaissez ces gens? Qu'est-ce que vous vous êtes dit?
Vous savez, je suis allé deux fois à Al-Abja, une fois avec Daniel Mitterrand, vous l'avez dit, et il y a eu un attentat contre nous, avec beaucoup de morts. Al-Abja, c'était une zone où vous aviez le sentiment de pénétrer dans la mort, d'être... une partie de la mort, tellement c'était évident, ces entassements de gens et ces... Alors, l'arme chimique est-elle plus redoutable que les autres? J'ai déjà dit ça tout à l'heure. Oui, bien sûr, parce que, d'abord, elle est interdite, complètement interdite. Vous avez le droit de lancer des bombes, n'est-ce pas, TNT, tout ce que vous voulez, mais pas... Donc ça, c'est une première raison pour s'indigner, bien sûr, mais c'est aussi... Une mort mystérieuse, vous voyez, elle vient par le trou de la serrure, si j'ose dire. Elle vient partout. Et vous, tout le monde a dans sa tête l'image de cette femme devant sa porte sur deux marches et qui tient son bébé. Et la femme est morte et le bébé est mort. On se souvient de ça, parce que c'est terrible. Alors les morts sont toujours innocents dans les guerres ou pas innocents, j'en sais rien. Mais enfin, l'arme chimique, c'est quelque chose de redoutable. Psychologique.
Puis ça nous renvoie quand même aux ombres les plus sombres de l'histoire du siècle. Et 1914, vers 14-18.
Oui, parce que c'est.
Dont on dit d'ailleurs, pardon, Bernard Kouchner, mais que la guerre Iran-Irak a ressemblé beaucoup à la guerre 14-18, avec des centaines de milliers de morts, des gaz. Enfin bon. Ça nous renvoie donc une charge à la fois réelle et symbolique qui est terrible dans les armes chimiques.
Oui, c'était une guerre moyenâgeuse. Mais voilà. Enfin, c'était une. Parce que, d'abord, la guerre 14-18, c'était dans les tranchées. C'était à un moment donné, on se levait, on allait. Tuer les autres, ou ne pas pouvoir les tuer et revenir. C'était une guerre épouvantablement primitive. Mais il y a eu Ypres, il y a eu un certain nombre de pays...
L'usage
des gaz. Oui, l'usage des gaz. Alors là, l'usage des gaz. Mais vous avez eu raison de dire que nous sommes aussi responsables de notre alliance avec Saddam Hussein. Nous sommes aussi responsables, pour une part, de la fabrication des gaz. N'oubliez pas que nous avions prêté, je ne sais plus combien, 8 ou 12 étendards pour se battre contre l'Iran.
Et souvenez-vous comment Saddam Hussein était reçu en France entre 1974 et 1976.
Vous vous souvenez qu'il y a eu deux flics morts dans Paris?
Non.
Vous devant l'ambassade. Et je ne pense pas qu'on fait un gros procès à Saddam Hussein. Sa garde a fait feu sur deux policiers français. Oui, enfin bon, nous étions alliés avec un salaud. Il y en a eu d'autres, il y en aura encore d'autres, je m'en dis. Mais ça, c'est vraiment lui, il était particulier. Vous savez pourquoi il y a eu ça? Parce que la Syrie et cette alliance avec la Syrie ou cette alliance avec l'Irak, c'est parce que c'était les deux héritiers, si j'ose dire, du Parti Basque qui a été créé au Liban par Michel Aflaq et qui était un séculaire, c'est-à-dire
dont sont issus Assad et Saddam Hussein, hein, c'est même parti basse. Rappelle aux auditeurs
le parti basse qui n'était pas un parti lié à la religion.
Non,
et pour
laïque,
nous, pour les Français laïques, pas un péché d'être laïque, c'est au contraire une gloire.
Une vertu, hein.
Ces deux pays, l'Irak et la Syrie, c'était pas dans le monde religieux musulman. Ah. Et donc ça a beaucoup compté dans nos rapports avec eux et nos alliances éventuelles. Voilà, mais enfin, écoutez, en tout cas, nous avons fait ce que nous avons pu. C'était pas grand-chose, n'est-ce pas? La France a refusé très largement de traiter des blessés d'Al-Abja. Il n'y a pas de quoi se vanter. Je ne parle pas de Daniel Mitterrand, qui était magnifique, mais il y a eu beaucoup, beaucoup d'erreurs politiques, franchement. Enfin, c'est pas facile d'avoir des alliances impeccables et transparentes au Moyen-Orient.
J'imagine, hein. Vous d'ailleurs, qui êtes à vous tout seul, une sorte de carrefour entre l'action diplomatique et l'action sur le terrain, vous savez mieux que personne à quel point il peut y avoir un hiatus terrible entre ce qu'on peut faire diplomatiquement et ce qui existe sur le terrain. C'est toujours très compliqué.
Oui, c'est toujours pareil. Moi, je pense que la politique et l'humanitaire sont indissolublement mariés. On peut en faire plus de l'un ou plus de l'autre de temps en temps, mais on peut pas les séparer. Parce que c'est affaire avec des hommes. Les morts, ce sont des hommes, des femmes. Les Al-Abja, ils n'étaient pas responsables, n'est-ce pas? On a fait ce qu'on a pu. Il y a eu des médecins français, c'est vrai, beaucoup. Et c'est notre fierté.
Vous vous souvenez de, bien sûr, j'imagine, de cet épisode de 1989, donc avec Daniel Mitterrand, où 335 réfugiés sont alors accueillis en France à Bourg-Lastic,
oui,
c'est ça?
Oui, on en avait accueilli pas mal, et c'est ce que j'ai proposé il n'y a pas longtemps lorsque les émigrés mouraient en mer. Il fut un temps où nous les avons pris, la France était généreuse, elle était le pays dont on dit, le pays des droits de l'homme.
Et de la terre d'accueil.
Oui, ceux qu'on laisse mourir en mer, s'ils peuvent penser que nous sommes le pays des droits de l'homme. Oui, en effet, il y a plein de villages, et on avait, mais à Bourg-Lastic, on a donné des possibilités, ils ont reconstruit le village. On pouvait faire ça de cette façon. Il y a beaucoup de place en France. Et contrairement à ce qu'on pense, la France est au 17e rang de l'accueil européen. Bon, enfin, ne revenons pas sur les épisodes douloureux qui nous assaillent. Et qui sont très proches encore. Mais oui, à Bourg-Lastic, ça s'est bien passé. Et il y a eu un certain nombre de volontaires de la fondation de Madame Mitterrand et aussi des médecins, ce qu'on appelle les French Doctors, oui. Qui ont travaillé avec eux. Ça a marché très bien. Vous pouvez les rencontrer. Ils sont complètement intégrés, bien entendu, à la France.
À quoi rêvent-ils, les Kurdes? Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi leur dessin, leur rêve de vie? Autonomie, disiez-vous, mais peut-être pas que ça. Qu'est-ce qu'ils veulent?
Ouais, c'est une question qui, pour y répondre franchement, on fait un peu de mal. D'abord, ils sont claniques. Pas tous. Il y a des partis plus modernes. Mais ils rêvent. Ils ont une très forte identité par rapport aux autres, à l'environnement. Je vous l'ai dit, ils ne sont pas inféodés à une religion. Ils sont musulmans, et tout à fait légitime qu'ils exercent leur foi, enfin, mais ça n'entre pas dans leur politique. Même les clans, comme celui de M. Barzani, n'ont rien à voir, ils sont absolument, du point de vue de la politique, si j'ose dire, laïque. Peut-être que pour le reste, c'est un peu plus compliqué. Les femmes et les hommes sont traités de la même façon, pas partout, pas dans le fin fond des montagnes, etc. Mais quand même, au gouvernement, dans les responsabilités, il y a des femmes, et il y a surtout, vous avez des numéros de téléphone au Kurdistan d'Irak, où la femme qui se sent opprimée ou menacée, elle reçoit la visite des flics immédiatement de la police. Non, c'est très particulier, et puis, non seulement ça, mais il y a une appétence au moins pour la démocratie. Donc ils sont très proches de nous, c'est ça qui fait cette identité.
Et c'est ça qui fait aussi qu'ils soient les ennemis naturels, du contraire de ça, c'est-à-dire Daesh.
C'est tout à fait vrai. Ils sont contre l'oppression, et ils en ont subi beaucoup. Et donc là, successivement, parce que quand on parle des Kurdes, vous comprenez, j'ai bien écouté le très beau récit que vous avez fait. Il faut parler de quels Kurdes? Il y en a 40 millions, vous avez dit 35, il y en a sûrement plus. Mais 40 millions une nation, c'est le plus grand peuple du monde qui n'est pas de nation. Bon.
Donc mais il est divers.
De Turquie, 20 millions.
D'accord.
Bon. Il y a des Turcs d'Iran, c'est pas pareil non plus. 7 à 8 millions, c'est pas exactement. Kurdes d'Irak, 7 à 8 millions aussi, et puis les Kurdes syriens qu'on a découverts récemment, ouais. Et qui n'étaient pas les plus favorisés, mais qui sont les plus politiques en ce moment. Et ceux qui se sont sacrifiés pour nous, ceux qui sont morts pour nous, 15 000 morts chez les Kurdes syriens, et je ne sais combien de dizaines de milliers de blessés, je les connais bien, pas tous, mais... Bon, alors... Voilà, c'est ça qui nous attire, et puis la réputation de la France, qui n'est pas toujours usurpée, c'est une réputation d'accueil, c'est une réputation d'ouverture, et puis de générosité, de droits de l'homme. Et
donc il pourrait y avoir un lien organique finalement entre les Kurdes et la France.
Il y a un lien organique, malheureusement, pardon, mais nous ne l'avons pas beaucoup respecté.
Et on arrive justement aux choses qui fâchent, Bernard Kouchner.
Pas beaucoup respecté pour ceux qui se... Parce que c'est... montrer de la compassion pour ceux qui sont morts à l'arme chimique, je l'ai fait 1000 fois, vous l'avez fait aussi, et c'est bien de l'avoir fait, et nous en sommes fiers. Mais les bébés qui meurent dans la Méditerranée méritent au moins autant d'attention.
Mais bien sûr, et nous avons consacré à ces gens-là.
Et c'était plus les Syriens aussi.
Hein. Kouchner, 3 émissions, plus de 3 émissions.
Ouais, bah, bravo.
Plus de 2, ça fait 3. Voilà.
Bravo, ça n'a malheureusement pas changé la politique.
Ah bah oui.
Non mais je ne vous reproche pas de pas avoir changé la politique, mais un peu quand même.
Bon.
Comme je me le reproche à moi aussi.
Oui, mais vous avez été ministre, hein. Moi je ne suis que...
C'est mon pote, c'est pas le ministre qui décide, on les laisse mourir en mer. Enfin, on peut essayer, oui c'est vrai. D'ailleurs, je suis fier qu'il y ait eu 2 bateaux. L'un de Médecins Sans Frontières, l'autre de Médecins du Monde, et qui ont répété les choses et qui ont été faire de l'aide en mer et qui ont récupéré des naufragés.
Encore faut-il qu'on puisse dominer nos peurs pour qu'on accueille ces gens. Parce que
oui,
c'est ça aussi.
C'est vrai, tout à fait vrai. Et malheureusement, ceux-là étaient musulmans et venaient de Syrie. Oui, et c'était dans une époque où l'extrémisme musulman, pas les musulmans, mais l'extrémisme musulman nous faisait peur.
On va écouter, maintenant on va parler des choses qui fâchent vraiment. On va écouter une archive, une déclaration d'un certain Donald Trump. Écoutez.
C'est quasiment seul et contre l'avis des généraux qui l'entourent et de son ministre de la Défense, le général Mattis, que Donald Trump a décidé ce retrait total et immédiat. Même les membres républicains de la Commission des Affaires étrangères du Sénat n'ont pas été prévenus et le sénateur de Floride, Marco Rubio, dit ceci. Cette décision est à mes yeux une erreur colossale qui aura des conséquences lourdes dans les mois et les années qui viennent. L'État islamique a certes été frappé, mais il n'a pas encore été défait. Et il n'y aura plus personne dans la région pour combattre ce groupe. Il va non seulement pouvoir se reconstituer, mais grandir et reprendre des territoires. L'autre raison pour laquelle c'est une immense erreur, c'est que ça laisse le champ entièrement libre à la Russie et même à l'Iran.
Voilà, donc c'était pas évidemment Donald Trump directement qu'on a entendu, mais on sait de quoi on parle. Donc Trump décide de partir, c'est-à-dire qu'on lâche nos alliés. C'est quand même l'un des faits diplomatiques les plus scandaleux de ces dernières années. Ça a beaucoup choqué. Mais comment...
Écoutez, je ne vais pas vous faire l'analyse psychologique ou psychopathologique de M. Trump.
Non, bon. On connaît.
Alors ça compte. Mais enfin, vous savez, on a lâché, il n'y a pas longtemps, on a lâché les Rohingyas, on a lâché les Ouïghours, on a beaucoup lâché. Et d'ailleurs, on a aussi lâché. Alors M. Poutine a gagné. Oui, c'est le roi du Moyen-Orient pour le moment. C'est vrai. Mais nous étions aussi avec les Américains, nous étions dans la coalition. Nous avons tenté, en tout cas le président Macron a élevé la voix, très fortement d'ailleurs. Mais c'est avant qu'il faut faire les choses. Le droit d'ingérence, c'est préventif. C'est avant qu'il faut faire les choses. Or, puis nous sommes face à qui ? À la deuxième armée de l'OTAN.
Hey.
Hein ? Nous sommes dans l'OTAN. Ah. Théoriquement, les pays de l'OTAN ne se battent pas entre eux. La situation est assez inédite, mais je ne défendrai pas une seconde la dérobade et la trahison du président américain, bien entendu. Mais enfin, on le savait.
Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, les Kurdes ?
Bah, qu'est-ce qu'ils disaient ? On savait que les forces américaines, enfin, il y en avait environ 2000... forces spéciales américaines, nous avions 200 forces spéciales, en gros, avec l'intendance, il y en avait plus, etc. On savait qu'ils allaient se retirer. Et je crois qu'il était... je pense qu'il y avait une solution politique et aucune solution militaire. Je pense qu'il fallait à la fois convaincre, mais c'est très difficile, ça prend des années, oui, c'est comme ça. Il fallait convaincre à la fois M. Poutine et Bachar el-Assad. Nous avons décidé de ne pas parler à Bachar el-Assad, la France. Oui, je ne sais pas si c'était juste à un moment donné, parce que maintenant, finalement, et Bachar el-Assad, et les forces de M. Poutine, ont gagné toutes les deux, et les Kurdes ont perdu sur tous les tableaux. Ouais. Sauf qu'ils sont Kurdes, et qu'ils continueront, et que nous continuerons de les aimer. Alors, c'est difficile, c'est horriblement difficile.
C'est dit, le verre était dans le fruit, dès lors que, et notamment la Russie, n'a pas pourchassé Daesh, mais les forces démocratiques.
Oui.
C'est les forces démocratiques, la cible. Ça n'a pas été Daesh.
Non.
Donc là, le verre était dans le fruit, déjà. Enfin, oui, sur de mauvaises bases.
Mais on ne pouvait pas. Mais les Kurdes nous ont rendu un énorme service. Mais puisque c'est eux qui ont battu, au moins militairement, et au moins pour le moment, Daesh, c'est-à-dire l'État islamique.
Oui.
Et donc, c'était nos alliés. Et donc, on les a fournis en matériel, surtout les Américains, mais nous aussi, etc. Alors après, on se trouve... Est-ce qu'on a... Vous comprenez, que pouvait-on faire ? Les prévenir que... Oui, les Américains un jour s'en iront, les Français aussi, puisque le matériel et la communication, etc. Enfin, nous étions liés par cette coalition. Alors, comment pouvait-on s'opposer? Il y a en plus un chantage que fait le président Erdogan, mais c'est un chantage que nous avons accepté, puisque nous avons donné de l'argent pour qu'il garde un certain nombre de gens dangereux. Beaucoup, hein, beaucoup. Il y a 3 600 000, ils sont pas tous dangereux, là, ce sont des Syriens qui sont réfugiés en Turquie. Et pour le moment, Erdogan ne les jette pas à la porte. Bon. Et puis, il y a des gens, très particulièrement, eux, des islamistes extrémistes, qui sont les gens du Daesh. Et est-ce qu'ils seront accueillis ou passeront-ils sans être accueillis par la Turquie pour se répandre à nouveau sur des cibles européennes en particulier? C'est un énorme danger.
C'est un énorme danger et c'est un énorme problème parce qu'on a cru que Daesh était non pas terrassé mais battu. Mais enfin, c'est une mauvaise herbe qui repousse très vite.
Très vite.
Mais enfin, pas baisser la garde, on est bien d'accord.
Non, ils ont été battus militairement par les Kurdes et voilà que nous, on punit les Kurdes. Enfin, nous, mais le monde occidental.
C'est absurde.
Bah, c'est dégueulasse. Absolument, absolument dégueulasse. Bon, nous n'allions pas seuls faire la guerre à l'armée turque.
Non, c'est clair. Alors oui. L'Europe, on en revient toujours. Pardon, mais on en revient à la question. Et l'Europe, alors?
Eh ben, c'est évident qu'on revient à ça. Et nous avons loupé l'Europe, disons les choses. Nous avons loupé l'Europe.
Sur ce point-là, oui, notamment.
Sur ce plan-là, c'est évident.
Et c'est évident.
Oui, nous n'avons pas de défense européenne. Pourra-t-on en construire une au moment où le Brexit est en train quand même d'arriver à ses fins, et puis l'Italie tremblote de l'autre côté, et puis voilà, nous ne faisons pas assez d'efforts entre la Chine d'un côté, je vous parle pas de monsieur Poutine qui va bien falloir, comment dirais-je, apprivoiser un jour, plus que nous ne le faisons, mais en tout cas par la Chine et des États-Unis, on a besoin d'une Europe avec une défense européenne, c'est sûr. Je pense que tout le monde le sait, mais que personne ne veut céder la moindre parcelle de son pouvoir.
Comment voulez-vous
Il n'y a pas eu de vrai élan vers une Europe fédérale.
Alors, comment voulez-vous que les peuples aient confiance en l'Europe?
Bon, il y a eu des très grands succès. Mais il faut succès, continuer. Bon,
là, par exemple, ça choque. Mais alors, Kouchner, on arrive à la fin de cet entretien. Qu'est-ce qui vous fait courir aujourd'hui? Parce que j'imagine que le mot retraite n'a aucune signification pour vous. Vous n'avez pas l'air.
Je ne suis pas à la retraite. Au contraire.
Vous êtes très actif. Bah,
écoutez, moi, ce que je pense, c'est que tant que les Kurdes ne seront pas capables de s'unir, encore une fois, ils sont 40 millions, qu'ils arrêtent d'agir, Kalachnikov à la main, je veux pas qu'ils cessent de se défendre, au contraire, ce sont des rugueux, il faut qu'ils le fassent, mais il faut qu'ils se parlent les uns avec les autres. Tous les Kurdes, pas seulement une petite parcelle, puis une autre, puis une autre.
Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Bernard Kouchner. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la condition des Kurdes, l'histoire des Kurdes, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Il y avait aussi Asselot, Ludovic Asselot à la technique aujourd'hui.